Donc on est dans Genèse chapitre 18 et je demandais si Franck voulait bien lire le chapitre entier, le chapitre 18 de la Genèse, si tu veux venir là devant.
Donc Genèse chapitre 18. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de la tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Comprenez, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'apporterai un morceau de pain, et vous fortifierez votre cœur. Ensuite, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Et il dit, « Fais comme tu as dit. » Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, « Apporte vite trois mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. » Puis Abraham courut vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Ensuite, il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et les mit devant eux. Et lui se tenait devant eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « La voilà dans la tente. » Et il dit, « Je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à la porte de la tente, qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même, en disant, « Quand je suis vieille, aurai-je ce plaisir ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille comme je suis ? Est-il rien d'impossible à l'Éternel ? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi, dans un an, et Sarah aura un fils. » Et Sarah nia en disant, « Je n'ai point ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Non, car tu as ri. » Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui ? Car je l'ai connu, afin qu'il commande à ses enfants, et à sa maison pour lui, après lui, de garder la voie de l'Éternel, pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre est vraiment grand, et leur péché est vraiment très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu à moi, jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Alors ces hommes, partant de là, allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr aussi le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu point à ce lieu à cause des 50 justes s'ils y sont ? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point la justice ? Et l'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. » Et Abraham reprit et dit, « Voici, je m'enhardis à parler au Seigneur, bien que je ne sois que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Détruiras-tu pour 5 toute la ville ?» Et il répondit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. » Et Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'il y en a trouvera-t-il 40 ?» Et il dit, « Je ne le ferai point, pour l'amour de ces 40. » Et Abraham dit, « Je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai. Peut-être s'il en trouvera-t-il 30 ?» Et il dit, « Je ne le ferai point si j'en trouve 30. » Et Abraham dit, « Voici, je m'enhardis à parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20 ? » Et il dit, « Je ne le détruirai point pour l'amour de ces 20. » Et Abraham dit, « Je prie le Seigneur de ne pas s'irriter, et je parlerai seulement cette fois. Peut-être s'y en trouvera-t-il 10 ?» Et il dit, « Je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. » Et l'Éternel s'en alla, quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure.
Donc on va voir tout le chapitre, mais on ne va pas voir dans tous les détails. En fait, ce chapitre nous introduit ou nous rappelle de plusieurs sujets. Donc la première chose est dans le verset 1. L'Éternel, lui, apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, c'est simplement pour nous rappeler que Dieu est en toute chose la première cause. Ce n'est pas qu'Abraham est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Et c'est toujours le cas. C'est Dieu qui initie la relation avec l'humanité, avec les individus. Et c'est les hommes, les femmes, les enfants qui répondent. On peut chercher partout, trouver Dieu. Mais si Dieu ne communique rien, on ne peut pas le trouver. Parce qu'il est invisible. Comment trouver quelque chose d'invisible? Il faut que lui, de son côté, vienne vers nous. Et c'est toujours de cette manière-là qu'il faut bien comprendre que c'est Dieu qui démarre, c'est Dieu qui cherche, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui veut nous sauver. Et en 1 Jean, chapitre 4, nous lisons, donc je ne donne pas tous les versets, mais nous lisons « Dieu est amour ». Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis on lit aussi, son amour consiste en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc toutes ces choses, y compris notre salut, ça commence avec Dieu. C'est Dieu qui initie le salut, c'est nous qui avons péché. Et c'est Dieu qui veut bien venir à notre secours. Ça, c'est un petit rappel, parce qu'on savait déjà que c'est Dieu qui commence toute chose, n'est-ce pas? La seconde chose, c'est l'hospitalité. Je vais relire cette paragraphe concernant l'hospitalité. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Donc, il faut imaginer la situation, il est là dans le désert, il y a peut-être une petite oasis, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a un arbre, au moins un arbre. Mais en fait, attention, hein, parce qu'Abraham avec toute sa famille et tout ça, ça fait 5, 6, 700 personnes, il y a beaucoup de monde là. Hein? Vous vous souvenez quand ils sont allés délivrer Lot et sa famille, quand il y a les 5 rois contre les 6 rois, ou je ne sais pas combien de rois, 4 rois. Eh bien, il y avait 305 ans quelque chose, jeune homme né dans sa maison, homme de guerre. Donc, il y a un grand groupe de monde. Et là, Abraham, on parle de lui, on ne parle pas de tout le monde, on parle d'Abraham, et là, devant sa tente, sous le parapente, et il se repose. Il n'est pas jeune, hein? Il a 80 combien d'années? 90 ans? Hein, il n'est pas jeune, ok? Et il voit ces trois personnes qui passent, qui viennent vers lui, et il est tout content d'avoir des visiteurs. Ok? Donc, il se lève et il va à leur rencontre. Ok? C'est ça qu'on lit là. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Promettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement, donc il se prend pas le temps, hein? Promptement, il part tout de suite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut, encore, il est actif, courut à son troupeau, puis il a pris un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc, je devine, hein, mais peut-être, il dit que c'était dans le chaleur de la journée, donc j'imagine que c'est un peu après le midi. Donc, Abraham et toute sa famille ont déjà mangé, peut-être, c'est pour ça qu'il ne va pas manger encore. Mais c'est dans le chaleur, la partie la plus chaude de la journée qu'ils sont passés là. Alors, nous allons apprendre en faisant la lecture par la suite que ces trois hommes ne sont pas trois hommes, ce sont trois hommes qui sont en forme d'homme, et deux sont anges et un c'est Dieu. D'accord? Donc, quand deux vont partir pour arriver à Sodome, eh bien, un qui va rester s'appelle l'Éternel. Donc, Abraham continue à parler avec l'Éternel, il va prier, donc toute cette intercession est devant l'Éternel, celui qui est resté là. Et ce qu'on voit dans cette récit, c'est la façon que Abraham était hospitalier. Donc, on a trois hommes qui ne connaissent pas, qui arrivent. Au début, il ne sait même pas que c'est Dieu et deux anges. C'est trois hommes qui se présentent comme ça. Il est tout content, il les reçoit. Il dit, tiens, vous allez vous reposer sous l'ombre de cet arbre et vous allez manger. Je vais vous donner de l'eau pour, comme on a chanté tout à l'heure, je pense aussi, pour laver vos pieds. Non, c'était dans le texte que tu as lu. Laver les pieds et tout ça. Vous rafraîchir, vous allez manger, puis vous allez continuer votre route. OK? Donc, il dit, prends trois mesures de farine, fleur de farine. Donc, voilà, j'ai amené ça. Vous pouvez marquer là, 11 litres. OK? Si vous lisez derrière dans les informations, un mesure, ça fait 11,7 litres. Donc, un mesure, c'est comme ça. Donc, un mesure pour chaque homme. Ça fait pas mal de pain. Comment ça se fait donc qu'ils vont manger tout ça, pensez-vous? Ils ne vont pas manger tout ça tout de suite. Parce que ça montre non pas seulement l'hospitalité, mais la générosité. Je ne suis pas certain, mais quand Boaz va donner des graines à Ruth, je pense qu'il va mesurer 6 mesures de orge ou de blé. Il va mettre sur un sac qu'elle va porter à sa mère. Et quand elle arrive et la mère voit tout ce qu'elle a amené, elle dit, oh, mais il est généreux. Tu as trouvé grâce aux yeux de quelqu'un. Vous comprenez donc? C'est une mesure, ça fait presque 12 litres. OK? Mais c'est en solide, pas en liquide, mais c'est volume, c'est volume. Et donc, on voit que, en fait, il va les expédier, il va dire bon, au revoir, et ils vont partir avec la nourriture, avec des pains, déjà pétris, déjà cuits. Et ça nous rappelle de ce que Paul a dit dans Tite concernant la générosité. Il le cherche dans Tite, chapitre 3, versets 13 et 14. Il dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Donc, Zénas et Apollos sont des évangélistes. Ils vont partir en voyage et ils vont passer par l'île de Crète, où se trouve Tite en ce moment. Et il dit, il faut pourvoir pour le voyage. Quand ils vont partir, il ne faut pas qu'ils partent les mains vides. Il faut que les nôtres, donc, ils ne vont pas partir avec les mains vides. C'est parce que, pas parce que Tite est riche, mais c'est parce que les frères et sœurs vont participer dans le besoin de Zénas et d'Apollos quand ils vont partir. Et donc, il dit, il faut que les nôtres, donc les membres de notre Église, apprennent aussi à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, Pour le dire, ça me rappelle hein, que voilà une petite boîte là-bas. Je vous ai parlé d'un besoin pressant et qu'on pourrait participer dans cette offrande. Et la parole appelle ça produire des fruits. Quand on participe dans le besoin des autres, on produit devant Dieu des fruits. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. OK? Donc on voit non pas seulement l'hospitalité d'Abraham, aussi sa générosité dans l'hospitalité ou à travers l'hospitalité. Et puis, dans les versets 9 à 14, on voit un autre sujet. Eh bien, c'est le fait que Dieu peut faire l'impossible. Dieu peut faire l'impossible. Alors, Francis qui n'aime pas le mot « mais », et moi, je n'aime pas le mot « impossible ». Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Même pour un vieillard, Abraham et sa femme, qui est bien sûr au-delà de l'âge de porter les enfants, par combien, 60 ans, elle est 60 ou 50 ans de trop vieille, eh bien Dieu quand même, s'il veut le faire, elle va porter l'enfant. C'est pour ça, elle arrive, elle a dit, oh, c'est n'importe quoi, comment moi je peux? Elle ne pouvait pas. Mais si Dieu a dit, tu vas le faire, elle va le faire. Vous voyez? Donc, ça faisait déjà, je ne sais plus exactement les années, mais à peu près 25 ans que Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il allait avoir une descendance, lui et sa femme. Et lui et sa femme ont dit, bon, peut-être c'est Agar qui va peut-être avoir pour moi un enfant. Et voilà, Ismaël et toute cette histoire-là. Non, ce n'était pas ça. En Isaac sera appelé ta postérité. Et Isaac n'est pas encore, il n'est pas encore, il n'existe pas encore. Donc, Dieu dit, dans un an, tu auras un enfant, tu auras un fils. Isaac naîtra. Et ça nous rappelle aussi de quelque chose, c'est que concernant nos détresses et nos difficultés, donc je ne parle pas de toute activité dans nos vies, mais ce qu'on subit au nom de Christ, eh bien, Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Mais je ne suis pas forte en moi-même. Comment peut-on être forte quand on est faible? Eh bien, c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui fait l'impossible. C'est Dieu qui pourvoit. Alors, attention, ça peut être... vu à travers aussi, parce que Dieu attend que nous faisons nos responsabilités, mais au-delà de nos responsabilités, donc dans le contexte de 2 Corinthiens 12-10, ça parle des détresses, ça parle des persécutions et des problèmes que les gens amènent dans notre direction, ils nous causent des problèmes. Et Dieu peut régler des choses quand nous ne pouvons rien faire et on vient enfin envers Dieu pour demander qu'il intervienne, qu'il exauce, qu'il arrête ce problème, etc., eh bien, Dieu peut le faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Quand nous nous trouvons faibles, ou quand nous sommes faibles, eh bien, Dieu, il est fort à travers nous. Autrement dit, si vous pourriez tout régler vous-même, Dieu n'aurait jamais rien à faire. Et si vous vivez comme ça, ben tant pis pour vous. Et quand vous venez à arriver à voir que je suis au bout du rouleau, et vous invoquez l'aide du Seigneur, eh bien, Dieu il intervient parce que vous voyez enfin que vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que Sarah était. Elle ne pouvait rien. Je ne peux pas porter d'enfant. Dans Luc 1.37, l'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. En parlant à Marie, pour dire que Marie, qui n'avait pas connu d'homme, et pourtant elle allait porter un enfant, le Seigneur Jésus, parce que Dieu allait faire un miracle en elle. Et aussi dans Luc 18, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ça notre Dieu. Il est le Dieu du possible. Et pour lui, rien n'est impossible. Alors, on voit dans le verset 14. Non, c'est le verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle a peur, elle a eu peur. Mais l'Éternel a dit, au contraire, tu as ri. C'est intéressant, cette petite échange. On n'a pas beaucoup de paroles de Sarah dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, on parle de Sarah en tant que modèle de vie pour les dames. Mais non pas modèle de parole pour les dames, parce que les deux choses qu'elle dit, prendre mon esclave, et puis elle chasse l'esclave, et puis elle ment. Donc elle n'a pas de bonne publicité pour ses paroles, n'est-ce pas? Mais elle a aussi, elle est le modèle de humilité et de soumission vis-à-vis de son mari, peut-être autre chose aussi. Et donc, pourquoi elle a menti? Pourquoi elle a dit, je n'ai pas ri? Il dit dans le texte, parce qu'elle avait peur. Hein? Quand les gens mentent, il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque part un intérêt à mentir. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils ont leur raison. Soit la peur, donc ils vont mentir. Soit le profit. Ah, si je dis un mensonge, je vais gagner plus d'argent. Ça, c'est très courant. Par perversité. Hein, le diable était pervers en voulant mentir à Adam et Ève pour pouvoir les détruire. Et c'est souvent qu'on va mentir parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Okay? Moi, j'appelle ça la perversité. Et aussi pour protéger. Hein, des fois, on va mentir. C'est très rare, mais Rahab a menti quand on a dit, où sont les espions les israélites? Où sont-ils? Ah, mais ils sont déjà partis. Elle a menti pour protéger la vie de ces deux hommes. Je crois que c'était deux ans. Donc, on ment par peur, pour profit, pour profiter, par perversité et aussi pour protéger. La chose, c'est que Dieu, il est absolument pur, absolument saint, absolument juste, absolument vrai. Il ne peut pas supporter le mensonge. Elle a dit, je n'ai pas ri, c'est pas une grand chose. Et Dieu dit, tu as ri. Il ne peut pas supporter le mensonge. Parce qu'il est vrai, il est vérité. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Il sait qu'on va pécher. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Pour montrer que Dieu ne ment point et nous mentons constamment. Hein, dans nos relations, dans nos pensées, en nous-mêmes. Il y a plein de façons que nous manipulons la vérité. Mais Dieu ne peut pas. Il ne l'accepte pas. Il doit dire, tu as menti. Il doit toujours dire, Dieu, il doit toujours dire la vérité. C'est pour ça... On voit dans 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Comment Dieu, qui est saint et juste et pur et vrai, pourrait-il dire mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas beaucoup. Il ne peut pas. Dieu ne peut jamais agréer nos péchés. Même pas une seule fois. Oh ben vas-y, tu peux faire un petit peu quand même. Non, ça ne se fait pas. Mais si on a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Voyez? Donc Dieu sait qu'on va pécher. Il connaît tous vos péchés. Depuis le début jusqu'à la fin. Il connaissait tout ça même avant de créer la planète. Et Jésus est mort pour effacer tous nos péchés. Il sait qu'on va pécher. Mais il doit mettre le point E. Mettre le doigt sur nos péchés. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Et quand nous confessons nos péchés, c'est qu'on va dire, « Ah oui, Dieu, tu as raison. Moi, j'ai fait ce péché-là. Et moi, j'ai fait ce péché-là. Dieu a raison et moi, j'ai tort. » Ça, c'est la confession. De reconnaître que mon péché, c'était un péché de la manière que Dieu a dit, c'était mal. Et Dieu a pourvu un moyen pour tout effacer. Par l'évangile. Jésus a tout effacé quand il est mort sur la croix. C'est ça aussi en 1 Jean 2, verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, parce qu'il sait qu'on va pécher, mais il veut. Mais chaque péché, c'est une offense à Dieu. Donc il dit à chaque fois, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Dieu a fait le nécessaire pour effacer nos péchés. Et à tel point, Dieu est juste et vrai et honnête. On voit dans Hébreux chapitre 4 et verset 12, où nous lisons que la parole de Dieu, elle est... Je ne vais pas lire tout le verset. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge, la parole de Dieu, juge les sentiments et les pensées du cœur. Comme avec Sarah, c'était sûr. Elle a péché. Dieu l'a jugée et condamnée. Et c'est comme ça qu'il fait pour nous aussi. Et puis, il y a cette grande intercession dans ce chapitre, et nous n'allons pas le relire parce que ça prendra trop de temps. Mais la réalité, c'est que Abraham est en train d'intercéder pour son neveu, Lot. Il ne veut pas que Lot meure. Et quand on a parlé de Lot il y a quelques dimanches là, on a vu que Lot... Il n'était pas le meilleur exemple d'homme, n'est-ce pas? C'était un homme très attaché à la terre, il était mondain. Et pourtant, à travers cette prière, on voit que Abraham et Dieu reconnaissent que Lot est injuste. Et dans le Nouveau Testament, on lit que Lot était juste. Il était juste, mais il vivait pour le diable, pour ainsi dire. Il n'était pas un homme croyant qui vivait pour Dieu. Et à cause de ça, on a déjà parlé de ça, il a perdu toute sa famille. Il a perdu toute sa famille quand Dieu a jugé Sodome. Eh bien, toute sa famille est morte, sauf pour les deux filles. Hein? Et donc, on voit à travers cette prière que Abraham veut prier pour que Dieu ne juge pas Lot et sa famille avec les gens qu'il va juger dans cette vie. Donc, c'est pour ça toute cette question. Mais Dieu, il s'arrête, il dit non, je ne vais pas au-delà de 10. Hein? 10, c'est la fin, parce que ça, c'est Lot et sa famille. Et s'il n'y a pas 10, je ne vais pas épargner cette ville. Et il n'y avait pas 10, il n'y avait même pas 3. Il n'y avait que Lot qui était juste dans cette ville. Alors, une chose que Abraham dit dans cette prière, c'est dans le verset 25, c'est intéressant. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Donc on voit un principe ici. Qui se rapporte à travers toute la parole de Dieu, c'est que Dieu distingue, quand il va faire un jugement, eh bien, il va faire en sorte qu'il mette de côté les justes pour juger les méchants. Et comme dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, parce que Dieu va juger le méchant, la méchante. Et donc, il appelle les justes, comme il appelait Lot et sa famille, de sortir. Bon, ceux qui restent, ça c'est leur faute. Ce n'est pas Dieu qui veut. Mais bon, ceux qui veulent rester, restent. Quand le jugement tombe, ça tombe sur ceux qui sont là. OK? Par contre, dans l'Apocalypse, chapitre 3, 10, on voit le verset qui dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre. » Donc, je vais refaire la traduction. « Je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre. » Donc, ces mots « garde »,« garde »,« garder »,« garder en réserve ». Donc, ça, c'est les définitions de ce mot. Et il y a un petit mot en grec, donc c'est le mot « ex » et « de » ou « hors de ». Donc, c'est une protection. Il va réserver et garder en réserve hors de l'heure de jugement qui va venir sur toute la terre. Donc, on a vu plusieurs choses. Hein? Oh oui, je voulais encore dire une chose concernant l'intercession. C'est dans Jacques. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Donc, dans Jacques, on voit que on doit prier les uns pour les autres. Donc, intercéder les uns pour les autres, c'est dans Jacques chapitre 5 et verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Hein, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, Dieu veut qu'on prie. Et quand on prie les uns pour les autres, eh bien, on intercède, on fait comme Dieu fait pour nous, parce que Jésus intercède pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous, et vous pouvez intercéder les uns pour les autres. Donc, juste un petit résumé pour voir ce qu'on a parlé, parce qu'on a touché beaucoup de petites choses. Première chose, c'est reconnaître que Dieu a la première place en tout. C'est lui, celui qui initie, qui démarre, qui cherche, qui appelle, qui aime, qui sauve, etc. Aussi, à reconnaître aussi à exercer l'hospitalité. On n'a pas tous le don d'hospitalité, parce que c'est un don, mais quand même, on peut tous être hospitaliers envers les autres. Et on peut être, à la limite que Dieu nous donne par la grâce, la mesure d'hospitalité, on peut être généreux dans notre hospitalité. Vous devez avoir confiance en Dieu qui fait l'impossible. Ça, c'est vraiment la base de la foi. Si votre Dieu est trop petit pour faire l'impossible, vous n'allez pas très loin avec Dieu. Dieu fait l'impossible. Et puis, une dernière pensée, soyons honnêtes. Il ne faut pas mentir. Hein? Ne mentez pas les uns aux autres, mais plutôt dites la vérité dans l'amour. Hein? Parce que des fois, on peut dire la vérité, mais avec une méchanceté, avec une aigreur, etc. Non, il faut dire les choses vraies, mais avec quand même de la compassion et le besoin, le désir de voir l'autre personne progresser dans la voie de Dieu. OK?